Dans une équipe de foot, il y a l'arrière droit, l'avant-centre, le gardien de but et tous les autres joueurs. Et puis, on a aussi l'arbitre qui suit le jeu de très près. Il siffle les coups francs, distribue les cartons jaunes ou rouges et parfois décide l'issue du match en refusant ou acceptant un but. Alors, dès qu'il se manifeste, il polarise l'attention de tout le stade. Un avocat aussi est une sorte d'arbitre. Et il existe bien d'autres professions dont le rôle est d'être un intermédiaire entre deux ou plusieurs parties. Je continue à lire dans le deuxième chapitre de la première épître de Paul à Timothée. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Verset 5. L'un des enseignements fondamentaux des textes sacrés est qu'il y a un seul Dieu. Tous les peuples antiques, les Grecs et les Romains, honoraient un panthéon de divinités. L'homme moderne, même s'il n'est pas religieux, est aussi en adoration devant beaucoup de dieux comme le plaisir, le divertissement, le sport ou encore les vacances. Une majorité de gens rêvent de devenir vedettes de télé ou de cinéma et accepteraient n'importe quelle dégradation si cela leur ouvrait la porte du septième art. Les stades sont pleins à craquer de fanatiques qui sont tout aussi prêts à tout casser que leur équipe gagne ou perde le match, peu importe, ce qui compte c'est de casser. Tous ces gens sont des idolâtres qui adorent le pouvoir et le sentiment d'être important. Le concept biblique du Dieu unique va à l'encontre du pluralisme religieux de nos sociétés occidentales qui rejettent en bloc la notion d'une vérité absolue. La croyance communément répandue est que les dieux des chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes et j'en passe sont aussi valables les uns que les autres, ce qui est très cohérent avec l'idée que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Mais si tous ces dieux sont pareils, c'est qu'il existe différents chemins et toutes sortes de manières de trouver le salut. Dans ce cas, à quoi bon annoncer Jésus-Christ au monde? Oui, mais selon les Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est en lui qu'on doit croire afin d'être sauvé. Aux Juifs, l'apôtre Pierre a dit « C'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Un seul Dieu implique un seul médiateur, c'est-à-dire celui qui intervient entre deux parties adverses pour résoudre leur conflit ou pour ratifier une alliance. Le médiateur est un intermédiaire, un arbitre, en somme. Sous le régime de l'Ancien Testament, s'approcher de Dieu était un vrai parcours du combattant. Dans le temple juif, un épais rideau séparait le Saint des Saints du lieu saint. Seul le grand prêtre pouvait pénétrer dans le Saint des Saints où était l'Éternel, et cela une seule fois par an lors de la fête des expiations appelée Yom Kippour. Quant au lieu saint, seuls les prêtres y avaient accès. L'Israélite, lui, devait rester hors du sanctuaire et offrir un sacrifice par l'intermédiaire du prêtre pour avoir un contact avec Dieu. Mais aujourd'hui, il n'existe plus aucun de ces obstacles. Quand Jésus est mort sur la croix, il est écrit que le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Depuis ce jour mémorable, il est absolument interdit de passer par des anges, des saints, un être humain ou un rite pour accéder à Dieu, car il laisse toujours la porte de la salle du trône céleste grande ouverte, pour ainsi dire, et chacun peut en toute liberté venir à lui, à condition qu'il se présente en compagnie de Jésus-Christ, le médiateur, après avoir placé sa foi en lui. Car c'est Jésus et lui seul qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous ne sommes plus dans la triste situation du patriarche Job qui s'est lamenté disant « Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réplique ou que nous allions ensemble au tribunal. Il n'y a pas d'arbitre pouvant s'interposer et trancher entre nous. Aujourd'hui, nous avons un arbitre en Jésus-Christ car il est à la fois Dieu et homme et il a payé avec son sang le prix de la rançon pour nous racheter. Il nous comprend, il connaît nos faiblesses et nos fautes, Mais en lui, Dieu nous pardonne et ses bras sont toujours largement ouverts pour nous accueillir. Un des attributs qui est aussi l'une des merveilleuses caractéristiques du Seigneur de l'univers est sa compassion. Concernant les Israélites dans le désert, un prophète écrit « Dans toute leur détresse, il a été lui-même dans la détresse, et l'ange qui se tient en sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa compassion, il les a libérés, il les a soutenus et il les a portés tous les jours d'autrefois. » Voyez-vous, Dieu nous tend la perche, mais elle s'appelle Jésus-Christ et il n'y en a pas d'autre. Je continue le texte. Jésus-Christ a offert sa vie en rançon pour tous. Verset 6. Une rançon est souvent un sac de billets qui est donné en échange d'un otage. Pareillement, Jésus a donné sa vie en échange de la vôtre et de la mienne. Il a subi le jugement de Dieu à notre place afin que nous ne soyons pas condamnés à la mort éternelle. Jésus avait lui-même annoncé qu'il s'offrirait quand il a dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Les phrases « Il a offert sa vie en rançon » et « Donner sa vie en rançon » affirment que son sacrifice était, et est toujours, suffisant pour le salut de tous les êtres humains depuis Adam jusqu'à la fin des temps. L'expiation accomplie par le Christ est inépuisable. Sa valeur est infinie et peut couvrir tous les péchés jamais commis par des hommes. Cependant, seul un petit nombre s'approprie ce salut. Supposons que vous soyez en plein désert en train de mourir de soif. Vous arrivez devant une cabane à côté de laquelle se trouve un tuyau muni d'un robinet. Si vous buvez, vous vivrez. Mais si vous pensez « Ce n'est qu'un mirage » et continuez votre chemin, on retrouvera peut-être un jour votre carcasse momifiée. La grâce de Dieu est comme la pression d'eau qui arrive à votre évier. Elle ne se voit pas, mais vous croyez qu'elle existe et quand vous tournez le robinet pour obtenir de l'eau, vous faites un acte de foi. Je continue le texte. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Versets 6 et 7. Paul a été choisi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, c'est-à-dire Dieu est sauveur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et il a offert sa vie en rançon pour tous. Paul était un prédicateur, c'est-à-dire un héros, AUT à la fin, quelqu'un qui donne un message au public. Dans le monde antique, le héros faisait les annonces sur la place centrale de la ville. Paul était un héros de la bonne nouvelle qu'il proclamait partout et en particulier aux païens de l'Empire. Dans ce passage, Paul mentionne aussi son autorité apostolique et son intégrité. Tout ce qu'il dit concernant la foi chrétienne est la vérité. Timothée le savait très bien, mais ce rappel n'est pas superflu parce que cette lettre sera lue à toute l'assemblée et parmi ses membres, certains n'étaient pas convaincus. Je continue le texte. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Verset 8. Dans l'église d'Éphèse, les rassemblements étaient devenus des moments de tension et de controverse. Alors Paul pèse avec tout le poids de son autorité. Il veut et ordonne que les hommes prient. Ici, il s'adresse spécifiquement à eux, car dans les assemblées chrétiennes, ce sont les hommes qui doivent donner l'exemple et diriger le culte. Le fait d'élever les mains vers le ciel n'est pas ce qui est important. Dans l'Ancien Testament, on priait souvent ainsi, ce qui était un acte de foi, un geste d'adoration et une façon d'implorer le Dieu qui répond à tous nos besoins. Ce qui compte n'est pas tant le geste, mais que ses mains soient pures, sans colère ni esprit de dispute. Le mot « pur » signifie « non souillé par le mal ». Ses mains représentent une vie sainte, un esprit de paix et l'absence de conflit. Un autre point important à considérer concernant la prière est la foi. Celui qui s'adresse à Dieu doit le faire en croyant qu'il va agir. Je lis un passage. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dans les assemblées chrétiennes, les réunions de prière sont peu fréquentées parce que les gens pensent que Dieu ne va ni les écouter ni leur répondre. En réalité, le Seigneur écoute toujours ceux qui l'implorent et qui sont en règle avec lui et avec les autres. Seulement, sa réponse n'est pas toujours immédiate ou conforme à ce qu'on veut. Moi, je suis convaincu que mes prières servent à quelque chose, même si, je dois avouer, je ne sais pas comment. Maintenant, Paul va s'adresser aux femmes et définir leur rôle dans l'Église. Traditionnellement, elles ne peuvent pas devenir prêtres dans l'Église catholique ou orthodoxe. À l'origine, dans les églises protestantes, les femmes n'occupaient pas non plus de position d'autorité. Mais avec les mouvements féministes du siècle dernier, elles ont vu leur rôle évoluer jusqu'à devenir égal à celui des hommes, du moins dans certaines familles d'églises protestantes, comme les méthodistes, presbytériens et surtout les épiscopaliens. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de femmes vertueuses furent de grandes et célèbres servantes de l'Éternel. Déborah, par exemple, était prophétesse et juge en Israël. À cette époque, le peuple était opprimé et Dieu décida de le libérer. Il ordonna à un certain Barak de recruter 10 000 hommes. Je lis l'histoire en compressant. Mais Barak a répondu à la prophétesse « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire. » En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Les villes d'Israël étaient abandonnées, la vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère pour Israël. « Debout, éveille-toi, Déborah, interviens, debout. » « Éveille-toi, entonne un chant de guerre. Toi, Barak, lève-toi, ramène tes captifs. » Fin de citation. Alors qu'aucun homme ne voulait ni administrer Israël, ni le délivrer de ses ennemis, Dieu a choisi une femme. Quant à Barak, il ne fut qu'un intermédiaire. Il y a aussi eu la reine Esther et Ruth, la Moabite, qui ont chacune donné leur nom à l'un des livres de l'Ancien Testament. Et encore, bien sûr, la Vierge Marie. Anne, la prophétesse, qui ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière, et bien d'autres. Au premier siècle, la femme était utilisée comme objet sexuel religieux. Elle avait une place prépondérante dans les cultes païens et surtout les rites de fertilité. À Corinthe, le temple dédié à la déesse Aphrodite comptait 1 000 prostituées sacrées. À Éphèse, on adorait la déesse Diane. Et toutes les religions à mystère comptaient des prêtresses. Je continue le texte. « Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité. » Qu'elle ne se pare pas d'une coiffure recherchée d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Versets 9 et 10. Ici encore, Paul n'exprime pas son opinion personnelle ou un conseil, mais un ordre. Il parle avec l'autorité de Dieu. Les écrits, tant juifs que grecs, associaient l'intérêt exagéré pour les toilettes à un comportement immoral. À l'époque, porter des vêtements somptueux et coûteux, tels que Paul les décrit, aurait été scandaleux dans une église. À cette époque aussi, l'ouvrier gagnait 1 denier par jour, environ 12 centimes d'euros. Les femmes riches et les prostituées portaient des toilettes qui valaient entre 500 et 800 deniers, soit l'équivalent de 400 à 700 journées de travail. Une belle plante qui entre au culte, superbement habillée, fera sensation. Ça, c'est sûr, mais elle sera malvenue. Ceci dit, il y a des endroits appropriés où une belle toilette de fin lin et de pourpre met en relief la grâce féminine. Il n'y a aucun mal à porter une coiffure recherchée ornée d'un assortiment collier boucle d'oreille. Si on va à un gala, un bal ou un mariage. Mais dans une salle de culte, un tel apparat attirera l'attention des hommes qui reluqueront cette beauté et des autres femmes qui seront envieuses. Une telle tenue n'est pas convenable pour adorer le Seigneur. Paul ordonne donc aux femmes croyantes de se vêtir avec discrétion et simplicité. Discrétion, qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, veut dire modeste et humble. Le contraire de aguichant. En d'autres mots, les habits qui moulent, les jupes courtes et les décolletés plongeants n'ont pas leur place dans l'Église, parce que les hommes normalement constitués ne peuvent pas ne pas être affectés. Vous voyez ce que je veux dire. Le mot pour simplicité signifie réservé, retenu, maître de soi. Pour les Grecs, c'était l'une des plus grandes vertus. Le poète tragique Euripide la nomme le meilleur don des dieux, et Platon l'appelle une des quatre vertus capitales. Pour Paul, donc, la modestie, l'humilité et la maîtrise de soi faisaient partie des œuvres bonnes qui honorent Dieu. Je continue le texte. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Versets 11 et 12. Au premier siècle, les femmes étaient mal considérées aussi bien dans le judaïsme que dans la culture grecque. La tournure de cette phrase, qui est à l'impératif, signifie que les responsables de l'Église avaient pour obligation d'instruire les femmes, un concept révolutionnaire pour l'époque. En effet, la plupart des rabbins refusaient de les enseigner car pour eux c'était jeter des perles aux cochons. Dans le cadre de l'Église, les femmes ne doivent pas avoir la fonction officielle d'enseignante parce que ce rôle est celui de diriger appartient aux anciens qui sont des hommes. Ce n'est pas que la femme soit inférieure à l'homme, mais dans l'Église, elle doit être soumise. Subordination et égalité ne sont pas mutuellement exclusifs. Jésus est égal au Père, mais sur terre, il avait un rôle subalterne par rapport à Dieu. Et ailleurs, Paul écrit « Le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef du Christ, c'est Dieu. » Dans le dernier passage de Paul que j'ai lu, l'apôtre dit précisément « Je ne permets pas à une femme d'occuper le rôle officiel d'enseignante, car elle occuperait alors une position d'autorité sur l'homme. » Il faut comprendre cet ordre dans le contexte du premier siècle où les femmes restaient à la maison, ne travaillaient pas à l'extérieur comme aujourd'hui et ne jouissaient d'aucune autorité. Par contre, Paul autorise une femme à instruire d'autres femmes et dans le livre des Actes, on voit un couple, Priscilla et Aquila, enseigner un homme, Apollos, mais en privé. Je continue le texte. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme et elle a désobéi au commandement de Dieu. Versets 13 et 14. Le rôle subordonné de la femme a été établi par Dieu dès le début de la création. Selon le plan divin, elle a été créée pour aider l'homme. Par nature, Ève n'était donc pas destinée à assumer de hautes responsabilités. En s'écartant de la protection d'Adam, elle s'est rendue vulnérable à Satan, confirmant ainsi l'importance de sa soumission à son mari. Dans cette affaire, Adam s'est rendu coupable en n'assumant pas son rôle de chef du couple puisqu'il a suivi Ève dans la faute et a ainsi plongé la race humaine dans le péché. La femme a été séduite, c'est vrai, mais Adam a sciemment désobéi à Dieu. En dernier ressort, la responsabilité de la chute revient donc à Adam. C'est d'ailleurs ce que dit Paul dans son épître aux Romains. Je finis le chapitre 2. « Mais la femme sera sauvée par la maternité si les femmes demeurent dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Verset 15. Ce verset est peut-être bien le plus difficile du Nouveau Testament à interpréter. Tout d'abord, il faut savoir que le verbe « sauver » signifie aussi « préserver, mise en sécurité, préserver de tout danger ». Il apparaît plusieurs fois avec ce sens dans l'Évangile de Matthieu. De plus, tout le Nouveau Testament enseigne que le salut s'obtient par pure grâce au moyen de la foi seule. L'apôtre ne peut donc pas vouloir dire ici que les femmes seront sauvées en ayant des enfants. Ça n'a pas de sens et contredirait tout ce qu'il a écrit concernant le salut. La difficulté provient du fait qu'au lieu de développer sa pensée pas à pas, il saute des étapes. Il écrit une phrase au lieu d'un paragraphe. Quand il dit « elle sera préservée et sécurisée par la maternité », il parle d'Ève. Ensuite, ce qu'il vient de dire d'Ève, il l'étend à toutes les femmes et il généralise. Il sous-entend que toutes les femmes seront préservées et sécurisées par la maternité, puis il ajoute « si elles demeurent dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie ». Cela veut dire, d'une part, que les femmes seront préservées de la flétrissure, la tare spirituelle qu'elles portent du fait de la faute d'Ève, leur aïeule. Et d'autre part, qu'elles trouveront la plus grande satisfaction et le plus grand sens à leur vie, non pas en voulant s'approprier le rôle de l'homme dans l'Église, mais en accomplissant humblement le dessein de Dieu pour elles en tant qu'épouse, mère ou simplement, pour celles qui ne sont pas mariées, en devenant disciples de Jésus-Christ.